Bonjour à toutes et à tous, c'est Régis Moscardini, photographe animalier du blog auxoisnature.com et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode d'une nouvelle série d'émissions que j'appelle les Live Duo d'Instagram. Alors c'est quoi Live Duo ? Bien, c'est un rendez-vous quotidien et en live que j'anime sur mon compte Instagram Régis-Moscardini. Je discute à la cool, avec un invité ou une invitée évidemment, de tout plein de sujets. Photo bien sûr, nature évidemment, mais aussi d'environnement, de consommation plus vertueuse, bref, plein de sujets qui touchent de près ou de loin notre passion à tous qui est la nature. Pour ce cinquième épisode, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Sandra Bérénice Michel du compte Instagram Atmosphère Sauvage. Sandra est une photographe animalière de nature. Également, elle accompagne des groupes en montagne pour pouvoir photographier la faune et la flore. Elle est aussi très active sur les réseaux sociaux, notamment sur les sujets qui concernent tous, à savoir la nature, la préservation de l'environnement et des animaux sauvages. Et ce sont tous ces sujets qu'on va aborder avec elle, pendant une demi-heure. Photographie, nature, animaux. Et vous l'avez compris dans le titre du podcast, également on va parler pas mal du loup parce qu'elle est très concernée par ce sujet-là et elle passe beaucoup de temps à essayer de trouver, de chercher les traces de loups sauvages là où elle habite. Et donc, elle est vraiment très calée sur ce sujet-là. Je vous souhaite une excellente écoute.
Salut tout le monde.
Chouette, dis donc, t'es en pleine... Non, j'allais dire, t'es en pleine cambrousse et il y avait quand même des petites maisons derrière. Donc, t'es pas si perdu que ça quand même, quoi.
Non, en fait, c'est pas vraiment, tu vois, les chalets sont juste derrière. Là, il y a une grande butte et derrière il y a mon chalet.
Ok.
Et on a l'impression du coup que je suis un peu dans la nature, mais là je suis au milieu du village.
Ouais, donc du coup la 4G se passe bien, quoi.
Top. La connexion est mauvaise.
Bon, comment tu vas ?
Bah écoute, ça va fort bien, et toi ?
Bah ça va très très bien, je te remercie. Est-ce que comment ce confinement se passe pour toi dans ta montagne ? Est-ce que ça a été un vrai changement d'habitude ? Est-ce que pour toi ça a été c'est une contrainte forcément, hein ? Mais comment tu la vis ? Comment ça se passe ? Voilà, dis-nous tout.
Eh ben, je pense comme à peu près tout le monde que je l'ai pas super bien vécu au début. Après, j'ai eu une phase où je me suis vite dit, bah c'est génial, j'ai une énorme liste de choses à faire dont j'ai pas du tout le temps, donc je vais pouvoir m'y mettre, comme lire des livres, prendre le temps de regarder des séries, de pas faire grand chose en fait, vraiment de profiter tout simplement. Et je me suis mise à faire un petit peu tout ça. Puis après, j'ai commencé à me dire bon, c'était quand même un peu pesant en fait de pas pouvoir sortir. C'est vrai que pour quelqu'un qui a un appartement, forcément, c'est encore plus délicat. Mais c'est vrai que quand on a choisi de vivre à la campagne et qu'on voit tout ça autour de nous et qu'on peut pas y aller, c'est un peu dur aussi, quoi.
Un peu frustrant.
Un peu frustrant. Il y a ce côté-là, mais c'est comme ça. C'est pour tout le monde et c'est pour le bien de tous. Donc voilà.
Et est-ce que cette frustration, elle est un peu décuplée par le fait qu'en ce moment-là, ben, tu vois, c'est avril, c'est donc le printemps, donc ben c'est la nature qui renaît quelque part, voilà. Donc avec toutes les naissances qu'on connaît par rapport à des espèces qu'on a mis à photographier, les renards par exemple ou d'autres choses. Est-ce que c'est encore plus frustrant pour toi ou tu l'acceptes et puis tant mieux, elle est tranquille la nature et c'est mieux comme ça?
Non, ça va, je l'accepte. Après, printemps ou pas, j'aime sortir honnêtement à toutes les saisons. Et je me dis aussi justement que c'est pas plus mal pour les animaux. Enfin, comme on le pense un petit peu tous, on se dit bah tant mieux, au moins ils vont être tranquilles un petit moment. Bon après, je me suis aperçue que c'était pas forcément le cas parce que du coup, les gens ont quand même le droit de sortir une heure pour prendre l'air, ce qui est bien. Mais moi, par exemple ici, j'ai observé que les gens allaient sur des sentiers où ils vont pas d'habitude et c'est des zones où justement les animaux étaient tranquilles. Donc, ils ne le sont plus forcément dans ces endroits-là. Donc, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. C'est comme ça, c'est le confinement.
Ouais, mais de toute façon, je crois que c'est une situation qui est tellement inattendue, nouvelle, enfin, de mémoire d'homme, je crois pas. Je ne sais pas, les historiens devraient pouvoir répondre à cette question, mais ne pas pouvoir sortir de chez soi, en gros, ce n'est pas un couvre-feu, hein, ça c'est sûr, mais il y a un peu de ça quand même, quoi. Mais en temps de paix, je crois que ce n'est jamais arrivé, en fait. Donc, c'est quelque chose que personne n'a connu. Et bon, on sort du cadre de la photographie, mais comme on vit tout ça, c'est important qu'on en parle quand même aussi. Hein, c'est aussi le but de ces lives-là.
Il y a des associations ou des sociologues ou des psychologues qui se demandent un peu comment les gens vont sortir de cette situation. Hein. Tu vois, l'idée que je me fais, enfin, c'est vraiment une question que je me pose et que je te pose aussi, je sais pas si on a la réponse, mais et je mets des gros guillemets, bien sûr. Hein, clairement que c'est absolument essentiel de rester chez soi, hein, on l'a bien compris, mais tu vois, il faudrait pas que, quelque part, que le remède soit pire que le mal. Le remède, c'est le confinement. Okay. Mais si ce confinement dure vraiment très longtemps et que ben il y a plein de personnes qui ne peuvent pas sortir, nous ça va encore, on est à la campagne, ça va, hein, tu vois, on s'en sort pas trop mal. Hein.
Non,
Mais
on
ceux qui
espère.
sont vraiment en ville et qui peuvent pas avoir cette petite heure de promenade, mais où ils voient rien, quoi, pas grand-chose, il faudrait pas que ce remède soit pire que le mal. Je sais pas, c'est une vraie question en l'air que je lance, je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Je suis assez d'accord avec toi et tu parlais de cette question de couvre-feu. Nous, on a la chance à la campagne de ne pas avoir de couvre-feu, mais c'est vrai qu'il y a certaines villes où il y a un couvre-feu et je me dis que du coup, c'est encore plus. En fait, c'est psychologique parce qu'il n'y aurait pas. Il n'y aurait pas ce on doit pas sortir. Je pense que les gens continueraient leur vie et même des fois ne sortiraient pas et ça les dérangerait pas parce que voilà, il n'y aurait pas vraiment cette instruction de on doit rester chez nous. Le couvre-feu, c'est encore une barrière supérieure et du coup, psychologiquement, on se dit bon, bah, vraiment, on m'impose quelque chose donc c'est difficile dans sa liberté de se dire bon, bah, là, j'ai vraiment pas le droit, quoi. C'est difficile de se faire imposer ça, quoi. Donc, ouais, après, comment on va le vivre psychologiquement? Écoute, je sais pas trop.
Bah
J'ai
non.
envie de dire qu'on ne le vit pas. Je pense pas qu'on le vive super bien, quoi qu'il advienne. Et il y a pas mal de personnes qui commencent à parler du fameux déconfinement. Je sais pas non plus comment va se passer ce déconfinement, mais c'est vrai que psychologiquement, ça va pas être super évident. Après, on a quand même la chance, faut pas l'oublier, de pas avoir vécu de guerre, comme nos anciens ou de choses comme ça. Donc, c'est certainement un mal pour un bien de toute manière et voilà, on va tous faire avec, se serrer les coudes et puis ça
Ouais.
passe.
Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a cette notion de solidarité qui est là, quoi. On la sent bien, hein, dans les réseaux, même dans les infos aussi, même si j'essaie de pas trop me tenir. Ah, tiens, une autre question, puis après on ira un peu sur le côté photographique. Pour ta santé mentale, Sandra, est-ce que tu te tiens en gros vraiment informé des informations, tu écoutes, tu lis beaucoup, la radio, la télé, toutes les émissions possibles, ou est-ce que tu te tiens éloigné de ça, en fait? Comment tu gères le fait qu'il faut quand même se tenir au courant parce que ben, ça nous concerne tous directement et au quotidien. Et en même temps, trop se tenir au courant, ben, ce serait aussi vraiment prendre de plein fouet des informations qui sont très négatives. On entend ben, parler de centaines de morts tous les jours. Voilà. Comment toi, tu gères ce truc-là?
Moi personnellement, je vais pas du tout, en tout cas chercher à m'informer. Je vais pas, on va dire, allumer la télé pour ça. Je vais pas trop, par exemple, sur Facebook pour éviter ces genres d'informations. Même si on doit les prendre quelque part ces informations parce que c'est la vie réelle, c'est ce qui se passe et il faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que personnellement, j'évite. Après, j'ai la chance ou la malchance pour le coup d'avoir un compagnon qui est très très information. Il aime tout savoir, il est curieux de tout. Et du coup, ben lui, il s'informe énormément dessus. Donc bon, bah ben, il va m'en parler et ça m'évite du coup de prendre les infos de la télé. Il fait le tri, il me donne les bonnes informations et que c'est pas plus mal entre guillemets.
Ouais, moi je pense que c'est pas mal de faire comme ça, de laisser faire un pré-tri par une personne qui elle veut bien faire le boulot, et toi tu prends voilà tu prends un truc pas de plein fouet, de manière un peu aseptisée quelque part, tu as les informations fondamentales et je pense que ça suffit finalement. Alors par rapport à la photographie, tu sais qu'en ce moment il y a des hashtags qui sortent et c'est je trouve ça génial. Ils auraient même d'ailleurs dû sortir plus tôt hein, ces hashtags-là, mais bon bah voilà c'est aussi peut-être quelque part les je sais pas comment dire. Les bienfaits, les aspects un peu positifs enfin pourquoi un peu, les aspects positifs du confinement, ok, hein, disons-le comme ça. Hashtags qui sont Safari Jardin, qui sont White Photo Atome. Est-ce que toi, comment dire, est-ce que tu utilises ça? Est-ce que pour toi c'était aussi une révélation ou tu le faisais déjà avant? Ces photographies bah, près de chez toi dans ton jardin, sans partir à des kilomètres et des kilomètres.
Alors du coup, bah moi pour faire clair ici, j'ai pas forcément de jardin. Quoique là, tu vois, voilà, si je sors un petit peu du chalet et que je bouge, il y a un champ, mais bon, c'est propriété privée, donc j'ai envie d'y aller. Mais j'ai toujours fait, en fait, et c'est un peu mon credo, entre guillemets, que ce soit par la vidéo ou les photos, j'essaie de toujours mettre en valeur la faune et la nature locale. Donc vraiment, bah, je pense que certains l'ont remarqué déjà, c'est juste uniquement en France, et tant que possible au plus proche de chez moi. Donc, j'en parlais pas forcément en mettant des mots comme Wild Photo Atom ou Safari Jardin, vraiment, c'est vraiment de la faune locale. Mais je le soutiens parce que finalement, c'est ce que je fais depuis toujours, en fait. C'est ce que je fais depuis vraiment toujours. Après, c'est génial qu'il y ait ce genre de choses qui sortent parce que ça permet à tout le monde de s'exprimer là-dessus. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font aussi, mais ça permet de leur donner un petit peu de visibilité en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment chouette qu'on se reconcentre un petit peu sur ce qui se passe autour de chez nous. C'est, il y a rien de mieux, quoi. Il y a
Bah,
rien de mieux.
carrément, carrément. Donc justement, récemment, tu as photographié quoi? Malgré tout, tiens, je reviens un peu sur ce confinement. Ça nous prend tellement les journées, finalement, on est en plein dedans. Qu'est-ce que tu as quand même photographié, j'allais dire, grâce au confinement, que tu n'aurais pas photographié quand même, quoi? Ah tiens. Alors pour ceux qui ont l'audio, qui n'ont peut-être que l'audio, tu nous montres une jolie abeille qui est en train de butiner sur un pissenlit.
Qu'est-ce que moi j'ai photographié? Alors ces derniers temps, pour être honnête, moi j'ai eu un peu du mal à sortir quand même. C'est-à-dire que j'ai mon autorisation professionnelle en poche. J'ai bien questionné les gendarmes, j'ai le droit de sortir pour mon métier, donc aller faire mes reportages photos, etc. Mais j'avoue que j'ai un peu le sentiment de me dire, bah, du coup, si vraiment tu le fais, quelque part t'en profites. Parce que tu es un peu privilégié, tu peux toi sortir des heures et des heures dans la nature. Et j'avais envie de me sentir quand même proche des gens en me disant bah non, enfin quelque part tu dois toi aussi t'infliger ce confinement comme les autres. Donc je sais pas combien de jours ça fait là, peut-être 26, 28, j'en sais rien,
On
mais
n'est pas loin
disons
du mois, ouais, on n'est pas loin du mois.
en 26, 27 jours, je suis sortie 5 fois pour faire de la photo
Donc
et
quand tu dis sortir, c'est vraiment aller au-delà du kilomètre obligatoire, quoi.
eh ben, pas du coup 4 fois au-delà du kilomètre. Ouais. En gros, je suis allée là, au-dessus, juste à côté. La sortie du village là-bas pour la photo du chevreuil, juste à côté des chalets. Je suis allée récupérer mes pièges là-haut, j'y suis allée 3 fois. Voilà. Donc,
D'accord.
je sais pas beaucoup, donc j'ai pas fait beaucoup d'images. Il y a le chevreuil, je fais quelques fleurs ici, mais en ce moment, non, je veux vraiment pas profiter en fait de cette autorisation parce que. Quoi qu'il advienne, enfin, au niveau de nos entreprises d'ailleurs, comme pour beaucoup, hein, c'est compliqué. Donc que je sorte pour faire des images ou pas, ça changera rien. Il vaut mieux que je reste chez moi comme tout le monde.
Ouais, ok, bah c'est très citoyen finalement comme comportement, c'est tout à ton honneur Sandra. Alors finalement, tu vois, j'ai déjà dit, hein, ces interviews-là, c'est même pas des interviews, c'est des discussions, elles ne sont pas préparées du tout, c'est sans filet. Mais malgré tout, c'est un peu à l'envers parce que tu vois, il y a des chances que ceux qui sont là ne te connaissent pas. Moi, je te connais bien parce qu'on a déjà pas mal travaillé ensemble, j'ai fait une interview de toi sur mon blog en audio, en podcast, il y a peut-être un an et demi maintenant, peut-être même plus, je sais plus. Donc, on se connaît un petit peu, mais je te pose la question, Sandra, en fait, tu fais quoi? Et puis, bah ouais, c'est quoi ton job, c'est quoi ton métier, et, quel genre de photographie tu fais? Voilà.
Ok. Ben déjà, bonjour à tout le monde, parce que je vois qu'il y a pas mal
Il y a pas mal
de
de choses, ouais.
commentaires. Il y a Marc qui dit vas-y par rapport au fait de sortir, vas-y pour nous. Je rebondis juste là-dessus 5 minutes. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous disent de quand même sortir un petit peu et faire des stories parce que ça leur fait du bien, ne
C'est
serait-ce
vrai.
que un petit peu de nature là,
Ouais.
tout autour de chez nous. J'y pense hein, de plus en plus à juste me balader là autour de la maison et faire quelques stories pour pouvoir les partager aux gens. Donc merci Marc de me donner un petit coup de chauffette, on va dire. J'y penserai fortement. Du coup, pour me présenter, bah je suis Sandra Bérénice Michel. Je fais de la photo depuis un bon moment maintenant. Et je me suis professionnalisée en 2016 parce que j'avais vraiment la volonté en fait de transmettre cette passion. Que ce soit pour la photo, mais en fait derrière cet outil de la photo, c'était plutôt la passion pour l'environnement qui nous entoure, la nature. Donc j'ai commencé en faisant des stages photo, des petits cours en milieu naturel, généralement des zones Natura 2000, donc ça va être en Occitanie et ici dans les Alpes. Et ça se passait vraiment super bien avec des petits groupes en collectif ou en privé. Et j'adore ça. Et je suis allée un petit peu plus loin. On m'a proposé des reportages pour la valorisation pardon, du patrimoine naturel. Quelque chose que je n'imaginais même pas pouvoir faire entre guillemets en tant que métier, quoi. C'est avant tout une passion, donc c'est fou de se voir proposer ce genre de choses. Et depuis, bah, je fais voilà pas mal de reportages pour le patrimoine naturel. Et ça m'emplit de joie, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Donc je fais un peu de vidéo, reportage pour le patrimoine naturel et puis les cours et stages photo sur le terrain, grosso modo.
Génial, mais c'est vrai que Finalement, le fait de faire de la photographie et de partager son savoir, et ben ça t'emmène sur des trucs que t'es pas forcément anticipé, quoi. Moi, je prends mon cas personnel, j'ai fait la photographie, j'ai commencé à partager mon savoir sur mon blog. Et puis ben maintenant, j'en suis là où j'en suis. J'ai fait plein de choses incroyables. Je suis allé au Centre de la photographie à Paris pour avoir mon stand. J'ai exposé aussi, ce que j'aurais jamais pu faire, j'imagine, sans mon blog. Enfin bref, ça emmène à des trucs absolument pas envisageables au départ. Est-ce que, par rapport à ce que tu fais en ce moment, je crois que tu avais un projet sur le loup, il me semble. Je ne sais pas si tu peux trop en parler. Je sais pas si c'est. Il n'y a pas vraiment dessus, il n'y a pas de secret parce que tu partages en story des trucs que tu vois. Ouais. Donc dans les Alpes, c'est quand même. Alors, s'il y a l'endroit en France où on a des chances de le rencontrer, c'est quand même plutôt là. Mais voilà, comment, en gros, je sais pas, déjà d'où ça vient. Et puis, ben, comment tu vis ça, comment tu t'y prends, voilà, tout ça par rapport au loup. Moi, je trouve ça assez fascinant. Il y en a chez nous, hein, en Auvergne. On voit, alors ça ne fait pas la une forcément tout de suite, mais tu vois, on entend parler dans les on-dit, tiens, peut-être que, mais bon, on sait qu'il est là, hein, mais pas de manière aussi forte et aussi impactante que dans les Alpes. Voilà, d'où ça vient, comment tu gères ça?
Eh ben moi, ça vient d'il y a à peu près 4 ans. C'est pas du tout un animal que je pensais croiser à l'état sauvage un jour dans ma vie, pour être honnête. Je pensais pas qu'il allait avoir la force, parce que c'est quand même dingue, enfin, de pouvoir traverser les frontières et venir reconquérir en fait son territoire. Et puis un jour, voilà, dans le village, quelques personnes ont commencé à dire, il y a ouï dire entre guillemets que y aurait un loup qui est passé par ici, donc sur notre massif. Et là, j'ai pris une claque, quoi. Je me suis dit, donc c'est ok, c'est possible. Et il est revenu, ou en tout cas, il est passé ici chez moi. Je me suis dit, mais il faut absolument que je suive ça. Déjà, d'un point de vue amour de la nature, de la faune, je me suis dit, c'est pas possible. Tu peux pas passer à côté de ça. Faut que tu traques, faut que tu quêtes. C'est fort, c'est puissant. Ça m'a, je sais pas, ça m'a pris au trip. Et puis d'un autre côté, j'avais vraiment cette volonté aussi, toujours dans le côté sensibilisation. Je me suis dit, peut-être que tu peux jouer un rôle là-dedans, parce que je sais que c'est difficile, la cohabitation avec le loup, en milieu pastoral. Et moi, je suis dans un tout petit village où, voilà, comme tous les petits villages de montagne, il y a du pastoralisme, il y a des bergers, des éleveurs, et la cohabitation est compliquée. Je me suis peut-être que, en faisant ce suivi, déjà, d'une part, t'apprendras à connaître le loup, vraiment ses habitudes, tout ça. Puis tu pourrais transmettre un petit peu derrière le pourquoi du comment, et chercher aussi à amener plus tard, hein, pas maintenant, mais en tout cas, amener possiblement des solutions de cohabitation, et le faire un petit peu accepter, quoi. Donc quand j'ai commencé, en fait, il n'y avait que des loups en dispersion ici, hein, pour être clair. C'est-à-dire que c'est des loups qui sont de passage, donc ils peuvent passer là dans la journée et puis ils sont plus du tout là, quoi. Ils passent par ce massif-là, mais ils vont à côté, je sais pas, en Haute-Savoie, et ils restent pas ici. Donc quand j'ai débuté ma quête, c'était très compliqué parce que c'était que des loups en dispersion. Cette année, ça a commencé à être beaucoup plus concret. J'ai eu des images dont j'ai pas trop parlé en story, parce que justement, j'essaye toujours de laisser pas mal de temps entre le moment où je découvre quelque chose et le moment où je le publie, quand même, pour être voilà vigilante. Et je prépare une vidéo là-dessus, donc je veux pas trop en dévoiler non plus, mais j'ai eu pas mal d'images. Et j'espère, en tout cas, je me suis posé beaucoup de questions pendant ces 4 ans, j'espère qu'ils vont reconquérir ce territoire-là. Et je me suis toujours posé la question de pourquoi, là, depuis ce temps-là, ils se sont pas installés, quoi. Est-ce qu'il y a trop de pression humaine? Est-ce que, il y a un petit peu de tourisme ici? Est-ce que l'impact est un petit peu trop sévère sur le monde sauvage? Pourtant, on a une belle réserve de biodiversité, donc de proies potentielles. Voilà, je me suis posé beaucoup de questions. J'espère qu'un jour, la sauce prendra ici et que finalement, tous les territoires de France retrouveront leur faune d'antan, quoi.
Alors là, j'imagine que c'est un travail que tu commences pas toute seule. Ces questions-là que tu te poses, tu n'es pas la seule à te les poser. Je pense que des scientifiques, des naturalistes se les posent. Tu travailles avec des associations naturalistes, par exemple, pour mieux comprendre pourquoi ça se passe comme ça?
Non,
Non, pas trop?
non, pas trop. Alors, j'ai du mal à faire confiance aux gens, surtout
Ouais.
sur ce de sujets délicats. Donc, en fait, c'est vrai que toutes les informations que j'ai depuis le début de mon suivi, les cartes avec les zones où les loups sont passés, où j'ai vu des traces, etc., je le garde pour moi. Il y a une personne qui fait ce suivi avec moi. Et puis mon copain, forcément, qui sait un petit peu tout, hein. Mais à part ces gens-là, j'en ai pas trop parlé. À part récemment, j'ai commencé à discuter avec Baptiste Morisot. Je sais pas si certains le connaissent. C'est quelqu'un qui fait du suivi des loups et de la diplomatie, on va dire, entre guillemets, sur la cohabitation interespèce depuis de nombreuses années. Donc, il suit beaucoup de meutes dans le Vercors, avec les bergers à la caméra thermique la nuit, tout ça. Donc, il a énormément de connaissances que moi, je n'ai pas. Soyons clairs, à la base, je suis juste une photographe. Donc, j'ai commencé à discuter un petit peu avec lui et c'est vrai que maintenant, ça m'aide à comprendre pas mal de choses. Mais avant ça, pas vraiment. Même l'ONF, tu vois, ils m'ont demandé de donner mes informations, mais je suis pas trop pour, quoi.
Ouais. Ah non, c'est un sujet. J'ai lu un petit peu le
Ah
commentaire qui passait. Effectivement, il y a un petit peu de scepticisme et c'est normal parce que il s'en est tellement pris plein la gueule pendant des siècles et des siècles, ce pauvre loup, que là il revient. Déjà, le fait qu'il soit revenu, c'est quand même déjà un sacré premier pas, quoi. Hein. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'il a été vraiment, enfin, on sait tous, mais exterminé. Mais pas si, c'est pas si vieux que ça, l'extermination, hein, je pense. Hein. Tu le sais peut-être mieux que moi, mais je crois années 45, hein, c'est pas un truc très 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 ancien le dernier loup en France, hein.
Ouais, c'est pas très ancien, effectivement.
Ouais. Et le fait que en gros, allez, 50 ans plus tard, ils reviennent, c'est déjà montrer une sacrée force de caractère, une sacrée force d'adaptation également. Et puis que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la nature, de toute façon, elle a horreur du vide et qu'au bout d'un moment, elle reprend ses droits, quoi. Donc bah, c'est un sujet tellement, tellement complexe et il y en a qui sont bien plus calés que moi. Et toi, tu l'es bien plus que moi sur ce sujet-là, parce que moi, j'étudie pas tellement. Mais c'est un sujet qui est politique en fait. Voilà, qui est pas juste naturaliste, qui est politique. Et quand ça touche à
Complètement.
la politique, enfin, on dépasse le cadre rationnel. On est dans l'émotion, on est dans la passion, et on est dans l'irrationnel justement. Et là, finalement, les gens n'entendent plus les arguments scientifiques, et c'est pour ça qu'il y a, il y a des, il y a des autorisations de quoi, de pas de battue peut-être, mais en tout cas de tir au loup, qui sont contre toute, comment dire, tout finalement bon sens scientifique.
Voilà.
Mais encore une fois, parce que c'est politique et le politique. Moi, c'est ça qui me surprend, c'est qu'en fait, tu vois, la version noble d'un politique, c'est quoi? C'est une personne qui va gérer comment dire, qui va prendre des décisions pour le bien commun.
C'est ça.
Et pour prendre ces décisions-là, ben lui il n'est pas expert, donc il va s'entourer d'experts, tu vois. Donc il va prendre un avis à droite, un avis à gauche, il va amalgamer tout ça, il va comprendre tout ça, et il va prendre un avis, une décision qui est censée être la meilleure pour le bien commun, le bien public, pour l'État, quoi, pour la nation, tu vois, pour les citoyens. Et tu te rends compte que beaucoup beaucoup de nos décisions, particulièrement sur l'aspect naturaliste, ne sont pas prises justement dans cette optique de bien commun. Elles sont prises selon, et on sait tout, selon des lobbies en fait. Et c'est pas le bien commun qui est privilégié dans les décisions politiques. C'est le lobby. C'est si moi je pense à comme décision, ok, tu me récompenses et en échange tu auras ça. Donc ok, je fais ça. Voilà, c'est du clientélisme, c'est toutes ces choses-là et c'est très 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 compliqué. Donc là, tu t'attaques à une tâche quand même, franchement. Éminemment complexe, il faudra tout ça très forte, Sandra, pour aller au bout, quoi, finalement. Je sais pas quel est ton objectif final, mais quel qu'il soit, tu auras beaucoup d'embûches sur ton chemin, quoi.
Je le sais. Ouais, je sais que je vais avoir pas mal d'embûches, comme beaucoup de gens qui le font déjà, hein. Il y a par exemple Corentin Esmieux, avec qui j'échange un petit peu à ce sujet, qui a fait un super livre d'ailleurs sur le loup. Jean-Michel Bertrand, avec qui j'ai pu échanger, c'est très compliqué. Ou Pierre Rigaud, qui est sur beaucoup plus
Bien
d'actions
sûr.
que le loup, et ils subissent pas mal d'attaques de personnes, en fait. On en a conscience. Après, on peut pas aller à l'encontre de ce qu'on a à l'intérieur, et ce qu'on a à l'intérieur, c'est vraiment cette envie de sauver quelque part notre environnement et la faune qui vit, et de pouvoir enfin cohabiter tous ensemble, j'ai envie de dire, dans la joie et la bonne humeur. Bon, c'est utopique, hein, mais si on pouvait tous cohabiter, que le vivant cohabite, bah, ce serait beau.
Moi, j'avoue être en général assez pessimiste sur, en gros, sur la suite, quoi, sur les années qui viennent, sur les 10 ans, sur les 30 ans, 50 ans, je suis plutôt assez pessimiste. Mais il y a peut-être un petit point, moi, qui me donne cette petite touche d'optimisme encore, c'est le fait que quand tu regardes des enfants, je sais pas, de 0 à 4, 5 ans, quand ils voient une image d'animal, mais quel qu'il soit, il y a un sourire, quoi, tu vois. Dire, si l'enfant, enfin, je pense que naturellement, fondamentalement, on est vraiment enclin à aller vers l'animal. Parce qu'on est des animaux, en fait, ça c'est sûr, on est des animaux. Donc, mais je l'ai vu, moi j'ai été dans un site pendant des années, donc je l'ai vu avec mes propres enfants, je l'ai vu également, mais il suffit d'en discuter avec aussi des parents, tu vois que, et c'est pas pour rien finalement que toutes les beaucoup de dessins animés sont des animaux anthropomorphisés, tu vois, c'est parce que finalement l'animal, il fait partie intégrante de nous, ça c'est sûr et certain, mais avant qu'une mauvaise éducation et que des mauvais exemples prennent le pas sur notre nature même, et ben ça se passe bien avec les animaux en fait. Et c'est juste qu'à partir du moment, je sais pas quand, je sais pas où, je sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui décident d'inculquer à leurs enfants que ben l'animal, il faut pas le respecter et que et qu'on a le droit de le tuer, qu'on a le droit de s'amuser avec et qu'on a le droit de d'avoir droit de vie ou de mort sur lui. Et c'est triste pour ces familles-là, pour ces gens-là, pour ces contextes socio-culturels, c'est triste, je trouve. Mais ça veut dire que c'est des choix, en fait. Voilà. Et je veux dire, c'est pas quelque chose d'inné, tu vois. C'est pas comme si en nous, on avait en nous le fait de vouloir tuer à tout prix les animaux qui sont autour de nous. C'est pas ça.
Non.
Manière innée, c'est sûr et certain, j'en suis convaincu. On est fait pour avoir de l'empathie pour l'autre et pour les animaux. Ça, c'est sûr et certain. Sauf qu'à un moment donné, il y a un choix qui s'opère chez des gens. Et ce choix ne va pas, n'est pas un bon choix. Donc, mais comme c'est un choix, quelque part, ça peut être changeable. C'est en ça que j'ai un petit peu d'espoir. Mais on est tellement, tellement, tellement nombreux, et il y a tellement de discours qui partent dans tous les sens que ça va être très, très, très difficile. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, hein. J'ai fait une longue diatribe là, mais
Non,
je ne sais pas ce que tu en penses, toi, hein.
mais honnêtement, d'ailleurs, comme souvent, tu le sais, assez d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours pensé que si on voulait changer les choses, Nicolas est un peu plus pessimiste à ce sujet, mais nous, on est un peu dans notre bulle, voilà, de photographes animaliers, de personnes qui sont sensibles à la nature. Donc, c'est vrai que des fois, on a tendance à être peut-être un petit peu trop optimiste. Et si on regarde à échelle générale, à l'échelle de la ville, de tout, en fait, des grands lieux, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'en fichent totalement de la nature, ça les intéresse peut-être même pas. Mais j'ai quand même cette conviction, un peu comme toi, que si on arrive à toucher les plus jeunes, parce que voilà, soit à un moment donné, c'est les parents ou ça a été à l'école qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé au niveau de la faune, si on arrive à les toucher là-dessus, on peut possiblement changer les choses. Après, est-ce que c'est trop tard ou pas? On le sait pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait rien ou voilà, on continue à tenter de sensibiliser. Et du coup, c'est assez sympa que tu me parles de ça. Ça me fait penser à ce que je suis en train d'essayer de faire là en ce moment. On en parlera plus tard. Mais j'ai un petit projet avec un petit article là. Il y en a pas mal qui ont participé et tu vas participer d'ailleurs avec tes filles. Tu le sais peut-être pas encore. Voilà. Un petit mouvement qui va sortir justement avec les enfants et pour la faune sauvage. Donc, c'est un petit rien, mais c'est histoire de mettre des messages positifs là-dessus et de montrer vraiment que l'enfant a ça. C'est inné. On est, comme tu dis, dans l'empathie envers la faune sauvage. On va plutôt chercher le contact et on est dans l'amour, en fait, de l'autre. Il y a pas, enfin, je connais peu d'enfants qui, de même, vont être dans la haine, sauf si vraiment il y a quelque chose qui a été bouleversé à l'intérieur, soit par l'éducation, soit par les parents, et voilà, des idées reçues. Donc, si on arrive à toucher cette jeunesse-là, peut-être qu'on pourra changer les choses.
Et les
Je pense
photos
que
qu'on fait, les photos que tu fais, les photos qu'on fait, les messages qu'on fait passer participent à ça. Ouais, c'est le fameux colibri, en fait, hein, c'est ça. Chacun apporte sa petite part.
garder espoir.
Voilà, c'est ça. Mais bon, n'empêche que c'est assez compliqué quand même. Ça fait déjà 32 minutes. Moi, je me suis dit 30 minutes, je sais pas pourquoi d'ailleurs, 30 minutes, mais parce que voilà, on a tous nos choses à faire. Pour moi, c'est le petit moment de un peu de bouffée d'oxygène, tu vois, de petit moment, mon compte Insta. Donc voilà, c'est pas trop parce qu'après, la rareté part et quand c'est moins rare, ben, ça a moins de valeur, quoi, tout
Exactement.
simplement. juste, ben, toi, je vois, il y a plein, plein de messages qui arrivent. Et
J'en ai vu.
ben, c'est super. Ben, déjà, bon, franchement, merci à tous déjà d'être là, c'est génial. Et en plus de participer, désolé, pas trop trop le temps, il faudrait faire un live, bah, tu vois, qui dure, où on prend le temps de lire les questions, tout ça, pourquoi pas d'ailleurs, ça peut être aussi ça un jour, hein, finalement, on se prend un live, on est à deux, et puis poser vos questions, puis on y répond.
Je
Et
vois.
puis, je sais pas, c'est... Tac.
C'est à nous adultes d'éduquer les jeunes générations. On est tous responsables pour arrêter de faire les sourdes oreilles.
Ça, c'est la
Oui.
clé, ouais, c'est la clé, ouais. Et
Mais
tu vois,
voilà.
quand j'ai décidé de démissionner de l'éducation nationale, c'est une des remarques qui m'a été faite par un de mes conseillers pédagogiques qui savait qu'on avait un peu les mêmes atomes crochus sur la nature, en fait. Et il m'a dit, mais tu sais, Régis, en tant qu'instit, tu peux avoir un sacré poids, en fait, hein, dans l'éthique, bien sûr, en restant professionnel, hein, et sans être dans le dogmatisme. Mais tu as un vrai rôle à jouer. Justement, peut-être pour déclencher des passions, pour sensibiliser les enfants. Il avait raison, c'est sûr, hein, mais je me sentais plus utile, justement, quelque part en volant de mes propres ailes. C'est un peu pompeux de dire ça, mais c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, en tant que toutes les personnes qui ont un contact animateur, même ceux qui font le BAFA, tu vois, ceux qui ont 17 ans, 17, 18 ans, qui vont faire, s'ils peuvent, cet été, faire leur première session d'encadrement de gamins en centre de vacances, en colo, ben déjà rien que là, ça commence, tu vois, à des petits gestes tout bêtes, mais je sais pas, t'es en promenade avec, t'as 17 ans, t'es en promenade avec un groupe de gamins qui ont 8-10 ans, et ben tu vois des oiseaux qui passent par là, ben regardez, même si on connaît pas les noms, mais regardez ce passereau qui vient de passer, ah ben c'est chouette et tout ça, enfin tu vois, juste ces petites choses-là en fait, sont importantes quoi, juste ça c'est important.
Simple fait d'observer, en fait, de savoir contempler, c'est important, puis ça fait du bien à l'être humain, il ne faut pas l'oublier. Quand on manque de cette nature, au fond, on n'est pas, on se sent pas bien, vraiment.
Merci Sandra pour ta disponibilité, c'est toujours un vrai plaisir de parler avec toi.
Ouais.
Et j'espère un jour pouvoir te rencontrer en vrai.
Ouais, carrément. En plus, on n'est pas si loin que ça. Il faudrait vraiment
Non, c'est pas très loin, c'est pas très loin. Ouais.
Qu'on se bouge un peu quand on sera découvert.
C'est ça, ouais.
Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, j'apprécierais que vous laissiez une note sur Apple Podcast. Évidemment, de préférence 4, 5 étoiles et puis un chouette commentaire. C'est le meilleur moyen de faire promouvoir, de faire connaître le podcast et les émissions autour de vous en laissant une bonne note. Si vous le faites, je vous remercie infiniment. Passez une bonne journée.